Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le secrétaire général des Nations Unies apprécie l'humilité du pape François, sa passion et sa compassion pour la condition humaine. Ban Ki-moon l'a affirmé après avoir été reçu ce mardi matin au Vatican. Il a invité le pape à visiter les Nations Unies à la première occasion qui lui conviendrait, compte rendu dès le début de ce magazine. Dans cette émission, nous parlerons également du défi que constituent les nouveaux mouvements religieux, des questions bioéthiques qui inquiètent l'Église, ainsi que de l'engagement croissant des catholiques sur le front de la défense de l'environnement. Le secrétaire général des Nations Unies a été reçu par le pape François ce mardi au Vatican. Ban Ki-moon était accompagné de son épouse et des membres de sa suite. C'était sa première rencontre avec le nouveau pontife. Une rencontre qui se situe dans la tradition des audiences accordées par les papes aux secrétaires généraux des Nations Unies. Le Saint-Siège en effet apprécie le rôle fondamental de l'ONU pour la sauvegarde de la paix dans le monde, la promotion du bien commun de l'humanité et la défense des droits fondamentaux de l'homme. Olivier Tosserie.
Dans une atmosphère cordiale et détendue, l'entretien a porté sur des dossiers d'intérêt commun, les situations de conflit et d'urgence humanitaire, Syrie, péninsule coréenne et continent africain où la paix et la stabilité sont menacées. Il a aussi été question du trafic des êtres humains, en particulier des femmes, et de la situation des réfugiés et des immigrés. Le secrétaire général de l'ONU a exposé le programme de son nouveau mandat, centré sur la prévention des conflits, la solidarité internationale et le développement économique équitable et durable. Il a salué en François un leader spirituel du monde, estimant que le Saint-Siège et l'ONU partageaient des objectifs et des idées communes. Nous avons parlé de la nécessité de faire avancer la justice sociale et d'accélérer les actions pour atteindre les objectifs du millénaire, a affirmé Ban Ki-moon en ajoutant que le nouveau pontife est un homme de paix et d'action. Le pape argentin a souligné la contribution de l'Église avec son identité et les moyens qui lui sont propres en faveur de la dignité humaine et la promotion d'une culture de la rencontre. Il y a quelques jours, le porte-parole de l'ONU avait indiqué que l'entretien porterait sur la poursuite de la coopération entre les Nations Unies et le Saint-Siège. Dans un message de félicitations au nouveau pape le 13 mars dernier, le secrétaire général de l'ONU avait exprimé le souhait qu'il continue à promouvoir le dialogue entre les religions, comme son prédécesseur Benoît XVI.
Ban Ki-moon a également salué le choix du nom de François par le cardinal Bergoglio, un choix qui est un message puissant pour la mise en œuvre des nombreux objectifs qui sont partagés par les Nations Unies. Le responsable onusien a également été reçu par le cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d'État du Saint-Siège, accompagné de Mgr Antoine Camilleri, sous-secrétaire pour les rapports avec les États. Ban Ki-moon effectue une tournée européenne qu'il a également conduite en Espagne. À Rome, il a notamment rencontré le chef de l'État italien Giorgio Napolitano et le Premier ministre Mario Monti. Devant la presse, le secrétaire général des Nations Unies a appelé le gouvernement syrien à apporter sa coopération complète et à autoriser la mission des enquêteurs que l'ONU souhaite envoyer dans le pays pour déterminer si des armes chimiques sont utilisées dans le conflit. Ban Ki-moon a par ailleurs exprimé sa préoccupation au sujet de la situation dans la péninsule coréenne. Lundi, le nouveau pontife avait reçu le président des luthériens allemands, Nicolas Schneider. À cette occasion, le pape François avait réaffirmé la volonté de l'Église catholique de poursuivre le dialogue œcuménique. Notre confrère de la rédaction allemande, Mario Galgano, a recueilli, à ce propos, le commentaire du cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens.
Cette audience était encore prévue sous le pontificat de Benoît XVI. C'était une contre-visite parce que le Saint-Père Benoît XVI était à Erfurt et c'était le grand désir du président de l'Église évangélique en Allemagne de venir à Rome. Maintenant, le pape François était d'accord et disponible de donner cette audience qui était passée à une atmosphère absolument amicale et fraternelle. Le président de l'Église évangélique a félicité pour le choix, pour l'élection du pape. Il a dit sa satisfaction pour le choix du nom François et a aussi déclaré qu'il c'est un grand souhait pour continuer et approfondir le dialogue œcuménique. Et le Saint-Père François a répondu très profondément que l'unité entre les chrétiens, on peut le découvrir aujourd'hui dans l'unité des martyrs, aussi dans l'histoire, par exemple, au temps du national-socialisme. C'était persécuté des luthériens et des catholiques, et le sang a uni le christianisme. Et le Saint-Père a dit qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes ne sont pas persécutés parce qu'ils sont catholiques ou luthériens ou réformés, mais parce qu'ils sont chrétiens. Et c'est le fondement le plus précieux pour tout l'œcuménisme. Le Saint-Père a fait appel aussi à le grand thème de l'œcuménisme des martyrs de Jean-Paul II.
À noter que le cardinal Corre participe au congrès international sur les évangéliques, pentecôtistes et charismatiques qui s'est ouvert ce mardi à Rome sous les auspices de l'épiscopat allemand. Les nouveaux mouvements religieux constituent en effet un défi pour l'Église catholique. La problématique est abordée sous plusieurs angles au cours de 3 jours de débats avec la participation d'experts et ecclésiastiques venus de plusieurs pays dont l'Allemagne, l'Afrique du Sud, les États-Unis et les Philippines. Le discours conclusif sera prononcé jeudi par le cardinal Corre et sera suivi d'une conférence de presse. Et toujours cette semaine, le Vatican va accueillir la 2e conférence internationale sur les cellules souches adultes intitulée « Médecine régénérative, changement fondamental dans la science et dans la culture » sous les auspices du Conseil pontifical de la culture. La conférence sera l'occasion d'échanges et de débats sur l'état actuel de la recherche sur les cellules souches et d'évaluer les stratégies possibles pour sensibiliser l'opinion publique et la communauté scientifique sur ce thème. Elle s'inscrit dans le cadre de la collaboration quinquennale entre le Conseil pontifical et les organisations partenaires pour favoriser le dialogue entre science et foi. Manuela à Fiji.
Le sujet n'est pas que scientifique. La recherche sur les cellules souches adultes se doit en effet de répondre aux cris de souffrance des malades et de leurs familles. Elle mérite donc l'encouragement et le soutien de l'Église, a estimé le cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil pontifical de la culture. L'Église, qui d'ailleurs ne doit pas se contenter d'offrir une vision spirituelle des choses, mais doit également s'engager de manière concrète, a insisté le cardinal Ravasi, en soutenant par exemple les familles des malades, notamment ceux atteints de maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, qui doivent assumer des frais de santé considérables et qui attendent beaucoup de la recherche scientifique sur les cellules souches. En ce domaine, la science et la foi peuvent travailler de concert puisqu'elles partagent les mêmes objectifs, aller à la rencontre des personnes souffrantes et leur délivrer un vrai message d'espérance. Le congrès qui s'ouvre sera également l'occasion d'évoquer les changements culturels et les conséquences sociales induits par les progrès de la médecine régénérative, tant au niveau des soins de santé, de la sécurité sociale, que des innovations technologiques ou des problèmes juridiques. Il appartient à l'Église de comprendre, connaître et étudier ces mutations culturelles et d'y apporter des réponses pastorales.
En Pologne, le vide juridique est total en matière de bioéthique, ce qui laisse la porte ouverte à toutes sortes de manipulations avec en toile de fond d'importants enjeux économiques. La fécondation in vitro y est ainsi couramment pratiquée dans des établissements médicaux privés échappant à tout contrôle. Il y a quelques jours, le ministre polonais de la Santé a annoncé que la Pologne rembourserait la fécondation in vitro à partir du 1er juillet prochain. Cela fait des années que les évêques se battent contre cette pratique qui prévoit la destruction d'embryons. Ce mardi, l'épiscopat a présenté un document intitulé « Les défis bioéthiques pour l'homme contemporain ». Nos confrères de la rédaction polonaise ont interrogé Mgr Henryk Ozer, président du groupe bioéthique de l'épiscopat polonais, lui-même médecin de formation. Mgr Ozer explique pourquoi ce document est important pour les fidèles.
Ce document que nous venons de présenter au cours de la conférence de presse est extrêmement important puisqu'il répond aux questions que les gens se posent aujourd'hui et devant les propositions et les possibilités qui sont créées, qui sont offertes, et devant en même temps les choix de vie qui sont extrêmement lourds en conséquence. J'ai cette impression que les médias servent des intérêts des autres et pas l'intérêt de la vérité qu'on peut trouver indépendamment des pressions financières et des pressions idéologiques.
Ce dossier préoccupe l'Église dans plusieurs pays d'Europe et du monde. Le document des évêques polonais peut-il servir d'exemple à d'autres conférences épiscopales? La réponse de Mgr Ozer.
Mais sous condition qu'il soit traduit aux autres langues, et je crois que les autres épiscopaux, conférences épiscopales peuvent quand même s'en servir et s'en inspirer, mais je dois avouer que certaines conférences épiscopales, comme par exemple de l'Église de France, est très bien dotée de personnes très compétentes et très engagées dans ce domaine bioéthique.
Mgr Henryk Ozer, président du groupe bioéthique de l'épiscopat polonais, interrogé par nos confrères de la rédaction polonaise. Attristé par la mort de Margaret Thatcher, le pape François a fait parvenir un télégramme de condoléances au Premier ministre britannique David Cameron. Dans ce texte, le nouveau pontife salue les valeurs chrétiennes qui ont inspiré l'engagement public de Margaret Thatcher et son travail de promotion de la liberté dans la famille des nations. Il prie pour le repos de son âme, ainsi que pour sa famille et pour le peuple britannique. Surnommée la Dame de Fer, Margaret Thatcher est morte lundi matin d'une attaque cérébrale à l'âge de 87 ans. Ses funérailles auront lieu mercredi 17 avril à la cathédrale Saint-Paul à Londres, en présence de la reine Elisabeth et de son mari. Margaret Thatcher avait été à la tête de la Grande-Bretagne de 1979 à 1990. La plupart des éditorialistes dans le monde ont mis l'accent sur le double visage du thatchérisme, les uns insistant sur les échecs de l'ultralibéralisme, les autres saluant la dame de fer qui sauva l'économie de la Grande-Bretagne. Son attitude volontariste sur la scène internationale est également controversée. Peu de personnalités auront provoqué des sentiments aussi intenses et contrastés que l'ancienne première ministre britannique. Alors quel bilan dressé de l'action de ce personnage historique? Élément de réponse avec Charles-François Mougel, professeur d'histoire contemporaine et spécialiste du Royaume-Uni à l'IEP de Bordeaux.
Mais il ne faut pas oublier que pendant sa mandature, qui a duré quand même de 1979 à 90, elle a toujours essayé de préserver ce qui fait l'essence du système britannique, c'est-à-dire l'État-providence. Elle ne l'a pas touché, elle en a sans doute réduit les bénéfices pour ceux qu'elle considérait comme des parasites, mais elle ne l'a pas détruit parce qu'elle le considérait comme fondamental pour le maintien du tissu social. Alors l'aspect négatif, c'est souvent vu évidemment par les catégories plus populaires de la population, c'est moins vrai pour les classes moyennes et supérieures. Donc dans ce sens, elle a divisé, si vous voulez, la société britannique, mais on ne peut pas dire que toute sa politique ait abouti à des résultats négatifs. D'ailleurs, bon nombre de pays européens et hors européens ont adopté peu ou prou ces politiques, et même quand on regarde sur le long terme, ce qu'on appelle le social-libéralisme, qui est encore en vogue dans nombre de pays d'Europe, porte les traits de l'influence thatchérienne.
En ce qui concerne la politique étrangère, on se souviendra de la guerre des Malouines et également de sa volonté de faire respecter la Grande-Bretagne et les intérêts britanniques sur la scène européenne. Est-ce que c'est un peu les derniers sursauts de la puissance britannique?
Alors je crois qu'elle avait très bien compris que, comme on le dit, la Grande-Bretagne est une puissance moyenne à ambition mondiale, mais que dans ce cadre relativement restreint, elle voulait y jouer tout à fait son rôle. Et je crois que d'une certaine manière, c'est ce que tous ses successeurs, Tony Blair, Gordon Brown et actuellement David Cameron, ont essayé de faire. Un nationalisme fort, parce que c'est le ressort de l'identité nationale, peut-être est-ce un vestige d'une grandeur qui est incontestablement passée, mais en même temps c'est un moyen de pression pour faire adopter par les autres pays des points de vue britanniques. Et moi je suis toujours frappé, on le néglige trop souvent, par le caractère très important de ce qu'on pourrait appeler l'entrisme au bon sens des hommes et des idées, l'entrisme britannique dans notamment les sphères européennes, mais aussi les sphères de l'OTAN, et dans d'autres institutions internationales.
Que retiendra-t-on également et enfin de son exercice du pouvoir?
Elle a eu le mérite, et elle le disait elle-même d'ailleurs, d'être une femme politique de conviction, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais transigé avec les valeurs qu'elle défendait, elle les a annoncées, elle les a appliquées souvent avec brutalité, mais elle n'a pas varié. Et sur ce plan-là, en termes de crédibilité, je crois que son message est fort, surtout dans une période où beaucoup de systèmes politiques, en Europe et ailleurs, subissent le discrédit, comme on le voit notamment en France en ce moment.
Charles-François Mougel, interrogé par Olivier Tosserie. Au Pakistan, un évêque a lancé un vaste projet de reboisement pour lutter contre la menace d'un désastre écologique dans le delta de l'Indus, le fleuve qui traverse tout le pays. Monseigneur Joseph Coutts, président de Caritas Pakistan et de la Conférence épiscopale, est personnellement engagé dans cette campagne. L'objectif principal est de reconstituer les mangroves, composées essentiellement de palétuviers, dont la disparition a bouleversé l'écosystème ainsi que l'économie locale. L'évêque s'est joint au personnel de Caritas pour planter personnellement une centaine d'arbustes dans une crique près du port de Karachi. Les changements climatiques, explique-t-il, provoquent déjà des ravages dans tout le pays. Les inondations, par exemple, sont de plus en plus fréquentes. L'église locale est déterminée à lutter contre ceux qui abattent les arbres des forêts pluviales, qui accaparent les terres côtières et qui déchargent les déchets dans la mer. En 1977, l'extension de la forêt pluviale au Pakistan était de 263 000 hectares. Elle est réduite aujourd'hui à 30 000 hectares. L'effort gigantesque déployé par Caritas Pakistan a été apprécié par la population et en particulier par les associations de pêcheurs. Mais selon les activistes, cette initiative louable ne suffira pas. Il est urgent que le gouvernement agisse. Or, c'est le contraire qui se produit. Des défenseurs de l'environnement ont été enlevés et torturés dans l'indifférence générale. L'administration locale n'a rien fait pour punir les coupables. En Haïti, le mouvement paysan Papaye a fêté ses 40 ans d'existence. Les objectifs de ce mouvement sont de garantir la souveraineté alimentaire de l'île et de promouvoir une agriculture menée dans le cadre d'un développement durable et du respect de l'environnement. Avec la collaboration de plusieurs ONG et des missions catholiques, ce mouvement a créé une dynamique importante. Jean-Baptiste Chenet, le directeur d'une institution d'éducation populaire qui accompagne les mouvements paysans en Haïti. Pour lui, des manifestations populaires comme le récent congrès du mouvement Papaye sont autant de signes positifs pour lancer une réforme profonde du système agricole haïtien.
Il faut comprendre que l'agriculture reste la principale activité économique dans le pays. Cette agriculture est une agriculture jusqu'à présent essentiellement paysanne. Des méthodes agro-écologiques devraient contribuer à satisfaire, à répondre aux besoins alimentaires du pays pour mettre fin à la dépendance alimentaire de l'étranger. Et en même temps, les méthodes agro-écologiques peuvent aussi aider à préserver notre environnement qui est déjà sérieusement dégradé.
50% des produits alimentaires sont aujourd'hui importés en Haïti. Est-ce que le pays a les ressources nécessaires, internes, pour changer cette situation ?
Cette situation peut changer dans la mesure où c'est une situation qui a été créée, qui a été fabriquée de toutes pièces. Je dois dire que dans les années 60-70, l'agriculture contribuait à près de 47% du produit intérieur brut, du PIB. Et s'il y a eu cette dégradation, cette dégringolade, je dirais, c'est à cause des politiques d'ajustement structurel qui ont été imposées au pays dans les années 1986 et 1994. Nous avons eu deux programmes d'ajustement structurel qui ont achevé de transformer notre pays, Haïti, en pays le plus libéral de l'Amérique latine et des Caraïbes. C'est-à-dire que le pays où il n'y a pratiquement plus de taxes sur l'importation des produits alimentaires pour le blé. En 1994, on est passé de 50% à 0%. Pour le riz, de 50 à 3%, de même que pour le sucre, alors que nous étions autosuffisants dans les années 70. Cette tendance peut être inversée si nous arrivons à développer une véritable politique agricole. Aujourd'hui, les paysans sont pratiquement les laissés pour compte du débat politique. En dépit de leur poids démographique assez important, les autorités politiques ne sont pas véritablement à l'écoute de ce que charrie comme revendication le mouvement paysan haïtien.
Des propos recueillis par Jean-Baptiste Cocagne. Au Canada, l'Église se dit elle aussi préoccupée par l'état de la planète. La Commission épiscopale Justice et Paix a préparé un document présentant l'enseignement récent de l'Église catholique sur l'environnement. Elle rappelle que les problèmes économiques, sociaux et environnementaux sont étroitement liés. Il est urgent, selon elle, de bâtir une nouvelle culture de la vie dans tous les sens du terme. La Commission invite les diocèses, les paroisses, les mouvements ecclésiaux et les autres organismes catholiques à réfléchir sur l'enseignement de l'Église à propos de l'environnement et à encourager parmi leurs fidèles le respect pour la création. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet à l'adresse www.radiovaticana.va, sur notre page Facebook Radio Vatican en français et sur Twitter, ainsi que sur vos tablettes et smartphones grâce à notre application en français.